France Culture.
À voix nue, Sylvie Gastaud.
Jacques-Yves Chin, metteur en songe.
Premier entretien, les armes de l'esprit. Bienvenue Jacques-Yves Chin.
Bonjour.
Un chapeau sur la tête, un cigare à la bouche, une façon amusée de regarder autour de lui, des bretelles à motifs pour tenir son pantalon, des genoux fatigués, un bouvier qui chemine à ses côtés par les rues, les places, les sentiers et sur les plateaux de théâtre. Jacques-Yves Chin est un homme de tous les théâtres. Jacques, je te connais depuis si longtemps qu'il me serait artificiel, sur des entretiens au long cours, d'abandonner le tutoiement. Tu es un pionnier du théâtre de rue, metteur en scène, co-directeur du Théâtre de l'Unité que tu fondes en 1968, adaptateur, traducteur, improvisateur, acteur tout-terrain, mais aussi fin connaisseur de la vie théâtrale et critique sans pitié de ses mœurs. Les spectacles et événements de ta compagnie ont lieu aussi bien sur des esplanades noires de monde que dans l'intimité d'une alcôve. Vous avez joué avec le Théâtre de l'Unité dans le monde entier, avec toujours un énorme appétit pour la rencontre et l'étonnement. Vous avez joué dans plus de 30 pays, en Corée, en Chine, au Canada, USA, Danemark, Portugal, Italie, Pologne, Belgique, Angleterre, Allemagne, Islande, Russie, Estonie, Israël, Niger, République du Congo, Haïti, Chili, Australie, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Éthiopie.
Ouais.
Ouais. Tu es rarement satisfait. Tu rêves d'impossible. Tu le tentes. Tu le rates. Mais voici plus de 50 ans que tu vérifies tes devises. Griffonne des théories jetables. Rédige chaque semaine des billets sur ton site. Explore et ravive la fête dans toutes ses manifestations. Forme et déforme des comédiens. Prends parole sur les barricades, dans les ministères. Affiche les paradoxes. Refuse les enfermements. Interroge les frontières. Cela avec l'arme du rire et de la fidélité. Ces 5 entretiens vont zigzaguer dans ton parcours vertigineux et ta carrière que tu qualifies de descensionnelle. Tu es né Jacques Rapoport, début 1943, dans un village de Juste, Chambon-sur-Lignon, de parents pourchassés, fuyant nazisme et péténisme. Ce village de Haute-Loire te donne d'emblée une philosophie de naissance et te place du côté de la résistance. Donc commençons ainsi, car toi-même tu désires toujours savoir où sont nés les peintres, les écrivains, les artistes qui te sont chers, comme si leur lieu de naissance pouvait jouer un rôle dans le déroulement de la vie. Alors Jacques, cette naissance au creux d'un village et au pic de la grande histoire du XXe siècle.
Oh là là, quel discours! Jamais j'ai entendu un discours pareil. J'aime bien dire que je suis né d'un sperme pas très riche. Donc mon père est interné à Drancy et quand il sort, il a perdu 40 kilos, il pèse 40 kilos. Et quand tu sors de cet endroit-là, t'as envie de faire l'amour. C'est ce que j'ai appris, hein. Le premier réflexe, faire l'amour. Donc, je vais naître exactement 9 mois après l'évasion de mon père, voilà. Et donc, homme de 42 kilos, faible, mal nourri, etc., qui s'évade, hein. Il a toujours raconté son évasion comme s'il était un grand héros, voilà. Donc, très mauvaise naissance. Voilà, je commence comme ça, hein, mais dans un très très joli lieu, dont on a appris plus tard qu'il était le village des Justes. Ça m'a impressionné. Ma mère me parlait souvent d'un pasteur qui s'appelait Trocmé, et qui avait fait un sermon. Un sermon qui avait dit aux habitants du Chambon-sur-Lignon, 800 habitants, vous allez accueillir du monde, ne leur posez pas de questions, on va se battre avec les armes de l'esprit. Alors ça m'a plu. Je suis né donc avec les armes de l'esprit. Dans ce village, il y avait aussi Camus qui était là. Albert Camus qui faisait sa cure tuberculose. Hein. Donc, voilà, Albert Camus, ma mère, 800 habitants, 5000 réfugiés. Voilà. Voilà un village dont qu'on peut citer en exemple. Ils n'étaient pas tous au Chambon-sur-Lignon, les 5000, mais ils étaient dans les petits villages alentours. Donc, je suis allé à Yad Vashem, qui est à Jérusalem. Tu vois, Yad Vashem, c'est un immense cimetière avec toutes les tombes des justes. Voilà. Alors, tu marches longtemps, et quand tu vois Chambon-sur-Lignon, alors là, c'était impressionnant pour moi. Et j'ai une petite larme. Parce que, il n'y a pas beaucoup de villages des justes. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que deux. Voilà, mais tout ça, j'avais 8 mois, hein, c'est tout. Après, je me suis fabriqué ma légende de metteur en songe, en disant il n'est pas né n'importe où. Hein. Après, j'ai toujours de l'amitié pour les protestants. Et dès que je rencontre des protestants, comme j'en ai rencontré plus tard à Montbéliard, je dis Chambon-sur-Lignon, c'est le passeport. Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr.
Et tes parents, tu peux parler de l'origine de tes parents?
Ah oui. Ben mes parents, mon père est né à Odessa et ma mère à Moscou. On est allé voir la maison de mon père à Odessa en essayant de la retrouver. Parce que quand tes parents vivent, tu leur poses pas de questions. Puis d'un seul coup, hop, j'y suis retourné. Pour les, voilà, c'est une famille juive qui semblait assez riche. On m'a montré les maisons qui, soi-disant, leur auraient appartenu. Donc Odessa, c'est devenu l'Ukraine. Hein, donc mon père, il parlait russe tout de même. Et ma mère, elle est de Moscou. Pareil, famille d'un père ingénieur, maman pharmacienne, voilà. Eux, ils vont se rencontrer à Paris. Hein. Ils vont fuir chacun de leur côté. Ils arrivent il y a 100 ans, ils sont arrivés en France, voilà, en 1923. Et ils vont être nationalisés en 1947, j'ai le décret. Et donc moi, de 43 à 47, je suis un petit enfant apatride. C'est bien, j'aime ça. Et à partir de 47, je suis français par mon père et ma mère.
Après, tu vas grandir dans le 16e arrondissement de Paris.
Quel drame. C'est mon drame, ça. C'est mon drame, le 16e. Oui, je suis en face du stade Jean-Bouin, pour ceux qui connaissent bien Paris, en face du Parc des Princes. Derrière chez moi, il y a la clinique du Belvédère. Quand je rentre de l'école, je suis avec deux gosses. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Mon père, il est ministre de la Culture. Ah bon, je sais pas, c'est quoi ministre de la Culture? Oui, André Malraux, c'est mon père, c'est les deux fils Malraux qui habitaient à 100 mètres de chez moi. Les pauvres, ils sont morts dans... Voilà, je fréquente que des gens comme ça. Ma sœur, elle est dans la classe de Catherine d'Orléac, qui devient Catherine de Neuve. Moi, je fréquente Françoise d'Orléac, voilà, les copains du lycée La Fontaine, le lycée d'à côté. Je vois que c'est des gens qui commencent un peu le théâtre, tous. Moi, voilà, je suis... Tu nais dans un environnement extrêmement bizarre, hein, que tu crois que c'est ça le monde, la porte d'Auteuil, la porte de Saint-Cloud, tu crois que le monde s'arrête là. C'est plus tard que je vais découvrir qu'il y avait un autre monde derrière.
Mais dans ta propre maison, oui. Il y avait du passage quand même de ta famille qui venait un peu des oncles d'Amérique.
Ben oui, moi je crois que j'ai pas vu de français avant l'âge de 10 ans. Ça parlait russe chez moi, c'était l'oncle Kolia, l'oncle Machin, la tante Sonia, tous des gens qui avaient beaucoup de personnalité. En plus, dans la rue Ningesser et Colli où j'habitais, ma mère disait « Tu vois le monsieur qui promène son chien, là, le cocker, il s'appelle Le Corbusier. Tu vois la maison d'à côté, c'est Le Corbusier. » Alors on parlait au Corbusier. Après, j'ai appris plus tard que Le Corbusier, c'était un grand architecte. Et il y avait Edith Piaf qui avait un copain dans ma maison. Il y avait, enfin, tu circules qu'au milieu de noms extrêmement célèbres, voilà. Mais tu sais pas, toi. C'est ton environnement. Je suis au lycée Claude Bernard. Mon prof, c'est bien entendu Poirier, mais c'était Julien Gracq. T'imagines? Depuis, j'ai tous les bouquins de Julien Gracq que j'arrive pas à lire. C'est trop compliqué pour moi. Mais j'avais donc comme professeur Julien Gracq.
Et c'était un bon professeur?
Très bon professeur, un peu pointilleux, mais très bon professeur, que j'aimais beaucoup. Donc, c'est l'environnement, 16e arrondissement, environnement extrêmement bourgeois, mais intelligent aussi. Hein.
Et donc, comme tu es né dans la capitale, il y a plein de théâtres, il y a plein de cinémas. Tu t'y rendais quand tu étais petit?
Oui, Ben bien sûr, tu parles, ma mère. Ben, une famille bourgeoise, ça a un piano d'abord. Hein. Ça va prendre des cours de piano au conservatoire russe, avenue de New York. Tu croises Serge Liffard dans ce conservatoire. Tu sais pas qui c'est, on te dit pas qui c'est. Ma mère est inscrite automatiquement comme abonnée à la Comédie Française. D'où mon dégoût pour le théâtre classique, d'ailleurs. Parce que tous les jeudis après-midi, hop, matinée étudiante à la Comédie Française. Je me suis tapé tous les Britannicus du monde et les Bérénice et tout ça. Voilà, une sorte de... J'ai le dégoût total, d'ailleurs. Au moins, ma mère, elle a réussi quelque chose. Hein. Mon père, il me sort. Oui, bien sûr, pour les anniversaires, mon père prend 20, il emmène toute la famille voir Carmen à l'opéra. Alors, je suis bien élevé, hein.
Aux acteurs que tu rencontres, tu demandes toujours quelle est leur blessure intime. Tu dis que l'artiste, c'est quelqu'un qui a un déficit dans sa vie, quelque chose qu'il n'a pas digéré, une boule de colère sourde en lui. Et s'il n'y a pas de colère, ce n'est même pas la peine de faire du théâtre. Alors toi, Jacques Lifshine, quelle est ta blessure intime ?
Ben oui, je me suis intéressé à la blessure intime, c'est « et juif », tout de même. Ça te marque. Tu comprends pas pourquoi tes parents ils t'emmènent au monument rue Geoffroy Lanier, tu vois. Voilà, moi j'ai 8 ans, je joue à la balle contre les morts. Je m'en fous complètement, tu vois. Mais peu à peu, ça te marque. Voilà, on se met à parler dans la famille après Klarsfeld qui publie tous les noms des déportés. On se met à te parler du 25 mars 43. Ta tante et ta grand-mère partent en camp, écrivent une dernière lettre. Dans la lettre, il y a marqué « Alors, comment va le petit Jacques ?» Ah, ça m'a fait pleurer souvent, toi. « Comment va le petit Jacques ?» Ça, c'est une première blessure. La deuxième, c'est le divorce. Ouais, comme tous les comédiens, hein, le divorce des parents, ça, c'est... Mes parents divorcent quand j'ai, je sais pas quel âge, 14 ans, voilà. Mais... La dernière fois, on me demandait de... Quelqu'un m'interrogeait, puis jamais j'avais osé raconter un épisode terrible pour moi, mais qui est complètement bête. Ma mère me dit, dis au revoir à ton père, là, il part en voyage. On était au premier étage, la rue Nagy-Séricoli, et je vois mon père partir dans une Simca 6 en voyage. Dis-lui au revoir! Je dis au revoir. Mais ma mère, elle avait pas dit qu'il partait pour toujours, tu vois. Après, j'ai demandé, mais il revient pas, papa? Non, t'inquiète pas. Et puis, c'est que 3 mois plus tard, on me dit, ton père va t'attendre derrière, dans la rue derrière le garage, avec mes frères et sœurs. Ça te marque un peu, tout de même. Puis, à l'époque, le divorce, c'était mal porté. À l'école, tu disais pas, ah, moi, mes parents sont divorcés. Non, on n'en parlait pas de ça. Mais ce départ, je l'ai encore dans la tête, tu vois. Savoir que ton père part pour toujours et ta mère, elle te dit, va faire un voyage, voilà.
Donc, après, tu as grandi sans père?
Oui, non, mais si, je le voyais. Hein. Il nous emmenait au restaurant, voilà, les frères et sœurs, 3 frères et sœurs. Oh là là, dis donc, c'est une psychanalyse. Hein.
Bon, ensuite tu as fait des études, donc tu as eu des chocs.
Non, mais d'abord, je suis très mauvais à l'école, je rate mon bac 5 fois. 3 fois, 2 fois, donc je ne me souviens plus. Je rate énormément mon bac, parce que la réaction au divorce des parents, c'est que mon père, il avait une petite entreprise, il fallait surtout pas que je reprenne la petite entreprise. Donc il fallait que je sois mauvais en maths, il fallait que je ne devienne pas ingénieur, il fallait que je sois dans l'échec. Et donc j'ai réussi dans l'échec, j'étais assez fort, d'ailleurs ça m'a marqué. J'ai des conduites d'échec encore aujourd'hui énormes. Donc j'ai des conduites d'échec en première, j'ai des conduites d'échec en terminale. Tant qu'on me fait suivre la filière scientifique, je rate tout. Et à la fin, mon père je m'inscris en philosophie et là c'est le drame. Mon père écrit une lettre, il dit t'es même pas un homme. T'es pas un homme. T'es beau être une secrétaire dans une entreprise, tu seras un rien du tout, un moins que rien, un raté. Ça m'a bien marqué, ça, voilà. Et c'est seulement après que je vais rentrer en fac et que je vais avoir des vrais chocs, effectivement, comme tu as dit. Oui, le professeur de fac à l'Institut d'études théâtrales où je m'étais inscrit pour faire une licence de lettres avec un certificat d'études théâtrales, un certificat littéraire et tout, il s'appelait Bernard Docht. Il habitait rue des Boulangers et il était totalement fascinant, surtout pour moi, parce que je découvrais un monde. Je suis d'une famille un peu de droite, et puis là, je découvre un prof qui te parle de la RDA, de Brest, tout ça, je connais rien, toi. Pour moi, la RDA, c'était le monstre. Les communistes, c'était l'horreur. Et puis on me dit, mais là-bas, il y a une culture absolument gigantesque. Tous les livres sont gratuits, les disques sont gratuits. C'est un pays de culture. Je revenais pas. J'entends des noms que j'ai jamais entendus de ma vie. Je prends des notes rapidement. Stanislavski, Meyerhold, Appia, Craig. C'est une découverte énorme. Et ce prof, maintenant, je me dis, il détestait Beckett, par exemple. Pour lui, Beckett, c'était réactionnaire. Il fallait aimer que Brecht. Alors maintenant, j'ai dû remonter la pente, remonter le fil, et me dire, non, attends, il exagérait. Il était un petit peu dogmatique à n'aimer que Brecht. Donc avec Edith, qui était devenue mon épouse entre-temps, on est parti en deux chevaux camionnette, on dormait dans la voiture, pour aller explorer Berlin-Est. C'était un grand moment, toi, tous les jours, Berliner ensemble, cure de Brecht.
Tu as eu un deuxième choc, c'est donc Arthur Rimbaud.
Ah oui, je ne sais plus. Ben oui, à 17 ans, voilà, je tombe. À 17 ans, je tombe sur le poème « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Il faut de l'époque et de la limonade, etc. Donc ça me marque. Ça me marque, je garde ce poème et je commence à lire Rimbaud et je me dis, ça, c'est une découverte. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Tiens, c'est comme moi, je suis pas de ce peuple-ci. Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant la justice. Voilà, j'adore. Et j'ai des carnets où je recopie comme les ados, quoi. Je recopie des bouts de Rimbaud. Puis après, j'oublie. J'oublie, mais j'apprends peu à peu le bateau ivre. Toute ma vie, j'ai appris le bateau ivre. Il y a 29 strophes et c'est une gymnastique, hein. Il faut que je sache le bateau ivre. Donc je connais toujours le bateau ivre et quand ça va mal, je me dis un petit bateau ivre, ça me fait du bien. Quand je reviens du métro, un petit bateau ivre, hein, c'est 4 minutes, c'est bien. Il y a plein de moments où tu dis du Rimbaud parce que ça, c'est comme un évangile, un crime vite que je tombe. Quand tu vas mal, tu dis un crime vite que je tombe au néant de par la loi humaine. Je dis des trucs comme ça. Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. C'est la dernière phrase. Normalement, tu la comprends pas. Et peu à peu, tu te dis, c'est vrai que l'âme et le corps. C'est vrai que c'est, voilà, l'âme et le corps. Et peu à peu, ça te vient, tu comprends ce que ça veut dire. Voilà. Et puis je vais enterrer Rimbaud, je vais l'enterrer, après je vais l'oublier quand je vais commencer le théâtre et je vais le retrouver 60 ans plus tard.
Mais ce goût d'apprendre par cœur et de... Ça vient d'où ce goût d'apprendre par cœur ?
Mais maintenant je sais, c'est que ça te rend invulnérable, dit je sais pas quel philosophe,
Steiner.
Steiner, oui, je sais pas, j'avais un petit disque... Un 45 tours d'Henri Michaud qui récitait « Je vous construirai une ville avec des loques, moi ». Pendant que les autres, ils écoutaient « Salut les copains » et les yéyés, moi j'écoutais en boucle « Je vous construirai une ville avec des loques, moi ». ».« Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas ». Et c'était Michel Bouquet qui disait ce poème. Il le disait vraiment magnifiquement, enfin voilà, c'est... Là, j'ai eu le culte de faire comme Michel Bouquet, d'apprendre le texte par cœur. Et ce texte, après, je ne sais pas à combien d'adolescents je l'ai transmis. C'est incroyable. Partout quand j'ai fait des stages de théâtre, je disais, l'entrée au stage est gratuite, vous devez payer en poésie, vous apprenez, je veux construire une ville avec des loques, moi. Et donc, tu le sais, tu ne payes pas l'atelier. Voilà, c'est comme ça.
C'était un peu les armes de l'esprit.
Ben oui, bien sûr.
Les poèmes grenades.
À fond, oui, j'ai écrit ça plus tard. Quand il y a eu la grève des intermittents, j'avais sorti ce sketch. L'art est une arme de construction massive. Après, j'étais très fier parce qu'il y avait des gens qui l'écrivaient sur les murs et il y a même eu des t-shirts. Enfin, c'était pas signé Jacques Lifshin, mais j'avais tout de même, comme Banksy, un mot d'ordre qui circulait. Je l'aimais bien, ce mot d'ordre.
Donc, l'art est capable de transformer le monde?
Écoute, Je vais boire un coup parce que là, c'est très grave ce que tu dis. Hein. L'art, il m'a transformé moi. Voilà. C'est vraiment toute ma prise de conscience où je me suis éloigné un peu des idées de ma famille. C'est grâce à des pièces de théâtre, il y en avait une, Roger Planchon, Schweck dans la Deuxième Guerre mondiale, et ben, il y avait Rimbaud, il y avait... Donc l'art peut transformer les gens, et il m'a transformé moi, et je vais en transformer d'autres.
Elle s'est passée où cette pièce de...
Planchon ?
Oui.
C'est au Théâtre des Champs-Élysées. Je sais pas comment j'ai eu l'idée d'y aller en vélo Solex. Je me souviens que j'étais en vélo Solex. Je devais avoir 17 ans ou 19 ans, je sais pas, j'étais très... J'avais pas commencé le théâtre. Et c'est le moment, c'est comme c'est les histoires qu'on raconte de Claudel qui était à Notre-Dame et qui d'un seul coup, tac, la foi lui tombe sur la tête. Et moi, c'était pareil. Je regarde cette pièce et je dis, le théâtre, ça peut parler du nazisme, ça peut être drôle, il y a des plateaux tournants, il y a des lumières, ça m'a complètement exalté. J'ai dit, alors là, je suis transformé. J'ai été transformé en 1h45 de temps. Je sors, je suis plus pareil. Et sans arrêt, je repense à cette pièce, tu vois. À Roger Planchon, que plus personne connaît d'ailleurs, qui a disparu. Voilà, mais à l'époque, il joue un grand rôle.
Bah, ça avait joué un rôle aussi pour la scénographie, non? Il y avait un plateau tournant.
Oui, le plateau tournant, oui.
Qui créait des effets de... Il ne savait même pas le définir, donc il disait des effets de cinéma.
Oui, voilà, à peu près. Oui, oui, ça m'avait complètement bouleversé. Et donc, je dis, si j'ai été bouleversé, d'autres peuvent être bouleversés. Et de temps en temps, comme j'arrive vers la fin de ma grande carrière, je reçois même beaucoup de lettres. Ah, Jacques, si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas qui je suis. Est-ce que ça me fait plaisir? J'en sais rien, je ne sais pas. Bon. Je les prends, hein, je les prends comme elles viennent. Hein,
Et ta propre vocation, tu vas la mettre sur pied.
Oui.
Et donc, tu vas commencer le théâtre.
Oui, c'est à la faculté de lettres de Censier que je vais monter un petit montage poétique. Ce qui est bizarre, c'est que dans le couloir de Censier, il y a un autre endroit, il y avait Ariane Mnouchkine qui commençait le théâtre aussi, toi, Ariane Mnouchkine. Mais je fais un petit truc qui se joue aux Trois Baudets, un petit montage poétique qui devait être vraiment... merdeux, à mon avis, mais voilà. Bernard Tord vient le voir et la salle est remplie par ma mère. Ma mère, son fils, joue à Paris et donc, je jouais le lundi soir et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y avait un autre garçon qui jouait l'affaire de la rue de l'Oursine. Il s'appelait donc Patrice Chéreau. Il est devenu très connu depuis. Il venait manger chez mon père, voilà. Il était très mal élevé, très arriviste, très carriériste. Je lui donnais aucune chance d'arriver à ce garçon. Je disais, tu peux pas avoir les doigts si crochus et devenir un grand artiste. Hein, voilà. Mais justement, j'ai appris plus tard qu'il fallait être comme ça. Ce qui a fait que j'ai pas fait la belle carrière que j'aurais dû faire, quoi. Donc voilà, je commence à grenouiller, comme on dit, dans le théâtre, voilà, après le montage Apollinaire à la guerre, enfin, un autre spectacle, le chant du fantoche lusitanien de Peter Weiss, à l'époque, il fallait être politique, c'était pas politique, ça valait rien. Je joue à la MJC d'ici le Moulineau, je suis très content, après un autre spectacle. Et puis, je tombe dans une phase de grande dépression. J'y arrive pas, je suis découragé. J'ai joué dans une pièce qui a raté complètement, que j'étais engagé comme comédien. Voilà, rien ne m'intéresse, je ne me lève plus le matin. Je suis atteint d'oblomovisme, ce qui est la maladie russe typique. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi tu vis, etc. Donc je lui ai dit qu'il faut que je fasse un enfant d'abord. Il y a que ça qui pourra me sauver. Au moins, je pourrais porter l'enfant à la crèche et ça me fera une activité, tu vois. Ça me fera une activité, un enfant. Et puis je me mets à travailler vaguement une pièce sur l'argent, l'avare de Molière. Donc, j'écris des trucs. On est sous Giscard d'Estaing. Les gens ne pensent qu'à l'argent. Je dis, tiens, ça... je pense à mon père qui ne parle que d'argent et tout ça. Je dis, je vais faire une pièce un peu critique qu'on va appeler l'avare & Co. Et puis, personne... J'écris avec un autre comédien que j'ai rencontré, qui s'appelle Ilan Shoshnov, on écrit des trucs. Dramaturgie, on écrit, voilà. Puis un jour, il y a un coup de téléphone. On me dit, Jacques, t'as rien. Est-ce que t'as des projets? Je dis, non, j'ai pas de projet, je m'en fous, je m'intéresse pas. C'est là qu'Edith me sauve et prend le téléphone et dit, mais si, Jacques, il a un projet, il travaille sur l'avare de Molière. Ça fait plus de 6 mois qu'il écrit tous les jours des machins sur l'avare de Molière. C'est comme ça que j'ai dû monter l'avare de Molière et que j'ai dû faire ma première distribution. Donc, je suis allé chercher un décorateur qui était très dans le vent. C'est le fils d'un grand décorateur qui s'appelait André Accard. Lui, il s'appelait Claude Accard. Je vais timidement le voir près de Beaubourg. Je lui explique le projet. Je veux monter la vare de Molière, etc. L'argent. Il me dessine le décor à vue. Lui, il va le construire. Claude Accard. Je suis dans un autre atelier d'entraînement à Paris 20e, dans une MJC. Et là, il y a une femme en face de moi qui a des très grands yeux gris clairs, etc. Je me dis, elle serait bien pour faire Dame Claude, un rôle muet dans l'avare. J'ai dit, madame, excusez-moi, je monte l'avare avec très peu d'argent, mais je cherche un rôle muet, le plus petit rôle du répertoire français, Dame Claude dans l'avare. Et elle dit, je suis d'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je rencontre Hervé Delafont. Hervé c'est une femme avec un prénom d'homme, et que je vais rester avec elle pendant toute ma vie, 72, plus de 50 ans. Plus de 50 ans, elle va m'accompagner, elle va virer tous les indésirables qui sont autour de moi, elle va monter les échelons, elle va devenir directrice à ma place, co-directrice, etc. Elle prend le pouvoir, elle est très autoritaire, elle règle tous mes problèmes. C'est là qu'elle devient la grande ordonnatrice et moi le metteur en songe, puisque moi je suis incapable d'organiser la moindre répétition.
Mais pourquoi tu t'appelles Jacques Lifshin alors, puisque tu es né Jacques Rapoport?
Je m'appelle Jacques Lifshin parce que ma femme, Edith, se met critique de théâtre dans un journal communiste qui s'appelait France Nouvelle. Et que quand on va au théâtre, elle se fait sans arrêt alpaguer, notamment par Patrice Chéreau. Alors, ton journal de merde, tu as écrit un article, etc. Et je suis gêné de m'appeler du nom d'une critique d'un journal communiste. Elle s'appelait Edith Rapoport. C'est pas son vrai nom, c'est mon nom. Et j'ai dit, moi, je change de nom, je prends le nom de ma grand-mère, de toute façon, mon père. Il était contre moi, il n'a pas voulu m'aider pour le théâtre. Ma grand-mère, elle m'a prêté de l'argent pour monter l'avare. Donc, je prends le nom de ma grand-mère, Lifshin. Je trouve ça joli. Ça fait pas trop, ça fait plus russe que juif. Ça vient d'Ismaïl en Bessarabie. Je trouve qu'il sonne bien, Lifshin, Lifshin, Lifshin.
Donc, tu étais Jacques Rapoport et tu es maintenant adoubé Jacques Lifshin du Théâtre de l'Unité. Ton esprit est armé, tu veux embrasser l'art, et surtout tu n'es plus seul. Tu as une troupe, une brune aux yeux gris, Hervé Delafont, Hervé E. Delafont, pour ordonner tes mises en songe, et un ingénieux constructeur décorateur scénographe, Claude Accard, pour bâtir des folies. Demain, Jacques, nous irons nous amuser dans la rue. Nous passerons du théâtre des deux portes à une deux chevaux à quatre portières qui a tourné et roulé à travers le monde. Et nous verrons entre autres comment l'échec peut ouvrir l'appétit et créer un spectacle mythique.
Très bien.
À demain, Jacques.
Eh ben, si je suis encore là.
C'était à voix nue, cette semaine, avec Jacques Lifshin. Réalisation Anne Fleury, prise de son Johanna Gabrick, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Gasteau, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.